Focus.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans ce focus sur la recherche, nous allons nous intéresser à la piste du fer. Quels sont les effets du fer sur notre cerveau? Quelle influence un excès de fer peut-il avoir sur le développement de la maladie d'Alzheimer? Pour y voir plus clair, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Alain Buisson, docteur, enseignant-chercheur spécialisé en neurosciences et chef d'équipe au GIN, le Grenoble Institut de Neurosciences. Bonjour, docteur Buisson.
Bonjour.
Alors, pour commencer en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a amené à vous intéresser aux effets du fer sur le cerveau ?
Alors, l'intérêt était de comprendre comment la vie et notre environnement va influer sur le développement d'une pathologie neurodégénérative comme la maladie d'Alzheimer. Donc, on pense qu'il y a une forte composante génétique qui nous prédispose à développer la maladie ou pas, et que cette composante génétique va être renforcée par une exposition à différents agents environnementaux. Parmi ceux-là, les ions métalliques, d'une manière globale, sont des cibles, en tout cas des éléments dont il faut évaluer la possible interaction avec ce fond génétique, on va dire.
D'accord. Et alors, lors de vos recherches, vous avez évalué en fait l'importance du fer dans la progression de la maladie d'Alzheimer. Concrètement, comment avez-vous procédé pour ces recherches ?
Donc, les ions métalliques, et je parle d'ions métalliques parce que d'une manière générale, le fer va être un peu un modèle pour nous, tout en sachant que d'autres métaux peuvent avoir des influences assez comparables. Ces ions métalliques vont être des modulateurs de l'activité de beaucoup d'enzymes qui vont être extrêmement importantes dans le fonctionnement du cerveau. Donc ici, pour comprendre un petit peu l'impact que pouvait avoir une exposition à des quantités anormales de fer, nous avons choisi d'utiliser des modèles animaux de la maladie d'Alzheimer et de les exposer à des quantités de fer qui était forte, hein. Vraiment, on essayait de modéliser une exposition anormale à des quantités de fer importantes et de voir sur ces animaux comment se développait la maladie. Est-ce qu'il y avait une accélération des troubles que l'on voit spontanément apparaître chez ces animaux qui sont modifiés pour développer une maladie d'Alzheimer? Et donc, c'est ce qu'on a fait. On les a donc chargés, on les a exposés à des quantités importantes de fer. On a regardé les modifications que cette exposition à des quantités importantes de fer pouvait faire en termes de modifications pathologiques au niveau du cerveau, notamment en regardant des marqueurs de la maladie, les plaques séniles, que l'on a vu apparaître en quantité plus importante et beaucoup plus rapidement que dans les animaux qui n'avaient pas reçu ces quantités importantes de fer. Et ensuite, on a évalué l'impact sur des tâches comportementales de ces traitements. C'est-à-dire, ce qu'on appelle les tâches comportementales, on va dire que c'est plutôt des tâches d'apprentissage, de mémoire. On est capable de faire apprendre des placements à des souris dans un environnement particulier. Elles arrivent à apprendre le chemin à suivre pour sortir d'un environnement qui peut être désagréable, simplement de la lumière, des choses comme ça. Donc, trouver un endroit au calme où elles peuvent se mettre. Et l'apprentissage de chemin va être perturbé chez ces animaux, donc comme la mémoire est perturbée chez l'homme. Elles avaient des troubles de la mémoire beaucoup plus rapides que les autres animaux non exposés au fer.
D'accord, donc ça a impacté la mémoire de ces souris qui présentaient déjà des symptômes d'Alzheimer, c'est ça? Elles ont été génétiquement modifiées pour déjà présenter des symptômes de la maladie?
Alors, les souris, d'une manière générale, ne développent pas de maladie d'Alzheimer spontanément.
Oui.
Ça a été un des problèmes qu'on a eu très tôt quand on a voulu modéliser la pathologie. Donc, on a dû faire des animaux transgéniques. Alors, quand je dis c'est la communauté scientifique, hein, c'est une approche qui date. Et maintenant, on a plusieurs souris qui ont été modifiées pour exprimer des formes humaines de la maladie. Et si ces souris n'expriment pas toutes les caractéristiques qu'on va retrouver chez l'homme, elles en expriment beaucoup, notamment des troubles de l'apprentissage. Donc, les troubles de la mémoire caractéristiques de la maladie chez l'homme vont apparaître chez ces souris, mais elles apparaissent graduellement, après, on va dire avec l'âge, donc on va dire 6 à 8 mois. Et le fait de les avoir exposés à des quantités importantes de fer faisait que ces troubles apparaissaient plus tôt.
D'accord, donc le développement de la maladie a été accéléré et ça allait de pair avec l'augmentation du fer.
Exactement, ouais.
D'accord, et alors du coup, de quel type d'exposition on parle en termes de fer ?
Oui, pour des raisons pratiques, on a injecté des quantités de fer qui n'étaient pas pathologiques en elles-mêmes, enfin en tout cas qui n'entraînaient pas des troubles au niveau du reste du corps, mais ça nous permettait de faire des doses récurrentes plusieurs fois par semaine pendant un mois, et de voir les conséquences un à deux mois plus tard. Bien sûr, les délais chez la souris sont extrêmement difficiles à reporter sur une vie humaine. Combien correspond à un mois de traitement pour une exposition chez l'homme, c'est carrément impossible à faire. Ce que l'on peut dire avec cette étude, c'est que vraiment un métabolisme en fer anormalement élevé sur une période relativement longue va avoir un impact sur le fonctionnement du cerveau et un impact sur la précocité des effets de la maladie, en accélérant tous les phénomènes.
Depuis vos recherches, ces observations ont aussi pu être confirmées sur les humains, sur des patients qui ont la maladie d'Alzheimer.
Les effets de l'exposition aux métaux chez les humains sont des études qui ont été faites avec multiples métaux qui sont toutes très controversées chez l'homme. C'est toujours difficile d'avoir les caractéristiques et les niveaux d'exposition à ces différents métaux au cours d'une vie. Donc, les études qui ont été faites, notamment avec l'aluminium, avec le cuivre, sont toujours sujettes à discussion et peut-être pas complètement défendables. Elles peuvent toujours être critiquées. Ici, l'avantage, c'est qu'on a eu un petit peu l'effet inverse. On a décidé de faire une exposition extrêmement caractérisée et la caractériser sur l'évolution de la maladie. Je dirais que notre étude met en avant l'impact d'une exposition aux métaux sur le développement de la maladie en démontrant quelque part que l'on était, on influait sur la rapidité des effets néfastes de la maladie qui préexistait. Ça permet de reprendre les études qu'on a chez l'homme et certaines qui démontrent un effet négatif de ces expositions aux métaux et peut-être de les revoir pour mieux les comprendre.
Bien sûr. D'ailleurs, quand on parle de santé, on aborde souvent la question de l'équilibre. Alors, dans le cas du fer, pas assez de fer peut causer certains troubles, en excès également, comme le montrent du coup vos recherches. Alors, à quels éléments de notre environnement ou de notre alimentation on devrait prêter attention, selon vous?
Une bonne question. Je crois que c'est vraiment, là, on est à des quantités de fer qui sont associées à de la pollution. On est sur des quantités de fer absorbées qui dépassent ce qu'il est souhaitable. Comme vous avez dit, les excès donc accidentels d'une exposition au fer pourraient être une des voies qui conduiraient à cette aggravation de la pathologie.
Ça se retrouve où dans l'environnement, en fait, le fer? C'est peut-être pas clair pour certaines personnes.
Alors, ça va être retrouvé sous des formes solubles dans certains environnements. Là, très clairement, pour arriver à des quantités aussi importantes, il faudrait vraiment ingérer des quantités massives d'eau contaminée par du fer, par exemple. Donc, difficile à avoir des effets d'intoxication par le fer chez l'homme. Par contre, on peut se poser la question sur l'impact que peut avoir des expositions prolongées à des quantités, on va dire, non pathologiques de fer ou de métaux et leurs conséquences sur cette pathologie qui va se développer et devenir plus importante avec l'âge.
Merci beaucoup. C'est effectivement utile de pouvoir le rappeler. Et alors, les résultats de vos recherches pourraient-ils ouvrir la voie à une forme de solution thérapeutique pour les malades d'Alzheimer, ou est-ce que c'est un élément intéressant à suivre pour adapter le traitement des patients, par exemple?
Vous l'avez dit, tous les excès qui induisent un stress au niveau du cerveau vont avoir des conséquences. Le cerveau est un organe étrange qui est stable en nombre de cellules dès notre naissance et qui va se développer, devenir plus complexe et vieillir avec nous. Les cellules ne sont pas renouvelées. Donc le moindre stress au cours de notre vie va accumuler des petits déficits avec lesquels le cerveau arrive à fonctionner correctement jusqu'au moment où ces petits défauts de fonctionnement vont prendre le dessus et vont faire apparaître des symptômes. C'est comme ça que je vois un petit peu cette exposition au fer ou aux métaux lourds. C'est des conséquences minimes à l'échelle de, on va dire, spontanée du moment de l'exposition, mais qui prolongées vont induire un stress au niveau cérébral qui le rendra plus vulnérable à une pathologie qui ne demandait qu'à se développer quelque part. Donc l'intervention thérapeutique que nos études pourraient donner, donc nous, de manière expérimentale, on a piégé le fer avec des molécules qui existent dans la pharmacopée classique et qui nous permettaient d'éliminer ce fer en excès. Ça avait des effets bénéfiques et ça a quelque part réversé l'influence néfaste de cette exposition. Au niveau expérimental, au niveau thérapeutique plus concret, ce que l'on a montré, c'est que notre exposition anormale à du fer influait sur la production par les neurones de ce peptide bêta-amyloïde qui est vraiment au centre de la pathologie. Donc tout ce qui fait augmenter la production de ce peptide conduit à une accélération de la pathologie. À l'inverse, tout ce qui va réduire la production ou augmenter l'élimination de ce peptide aura des effets bénéfiques.
C'est très intéressant, merci. Et d'ailleurs, depuis votre découverte, d'autres chercheurs se sont penchés sur le fer, donc on espère en tout cas effectivement que ça aille de plus en plus loin sur ce sujet. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Huisson, d'avoir pris le temps de nous éclairer sur ce sujet.
Merci.
Et merci à vous qui nous avez écoutés. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez soin de vous.
C'était Focus, le podcast qui s'intéresse aux initiatives, à la recherche et au quotidien autour de la maladie d'Alzheimer.